Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, suite des GG avec aujourd'hui un trio composé de Thomas Porcher, professeur d'économie, et Lina Dumont, intervenante sociale. Nouveau venu dans la bande, Antoine Dirce, juriste, ancien conseiller politique. Il a tourné la page de la politique, l'actualité, le débat continue de le passionner. Mais il est revenu à ses premières amours, à la vie quotidienne, avoir un boulot, se lever le matin, se coucher le soir après.
On se lève aussi quand on fait de la politique, et plutôt tôt souvent, oui. Et c'est aussi un travail. Mais je voulais revenir à la vie normale. Ouais. Je suis rentré vivre à Dunkerque, et je retrouve les joies de la vie en province, fini Paris, et toutes ces difficultés.
C'est mieux Dunkerque que Paris ?
Ah, c'est vraiment nettement mieux.
Et c'est mieux ?
Dunkerque, tous les jours, je vais me promener à la plage. Le soir, je prends éventuellement un petit verre sur le sable, les beaux jours arrivent, j'ai un appartement bien plus grand que ce que j'avais à Paris, tout est mieux, et puis les gens sont sympas à Dunkerque. Donc je salue tous les Dunkerquois et soyons fiers de notre ville.
Bien restauré d'ailleurs.
Il y a eu la reconstruction et aujourd'hui ça reprend un peu de poil de la bête. On a surtout de beaux investissements avec un effort de réindustrialisation. Les Hauts-de-France en général vont prendre leur revanche économique. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que même au cœur de l'été, on a 25-26 degrés, ça me va très bien.
La mer à 8 surtout.
Non, la mer est un peu plus chaude, mais on n'est pas frileux les Dunkerquois.
Pas,
combien elle est l'été? L'été, ça monte à 20, 16, 17.
Tu t'es déjà baigné dans une mer à 16 degrés, Alain?
Excellent.
Lui, il rentre comme ça dans l'eau, là.
C'est sûrement. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle, malheureusement, elle devient de plus en plus chaude aussi sur la Méditerranée.
Oui, c'est vrai. Pour la faune et la flore, c'est problématique.
Ouais, je sais.
L'année dernière, elle était à 29.
On ira à Dunkerque.
Exactement.
Mais on va éviter l'eau fraîche.
On voit les gens arriver. Moi, je veux préserver mon petit havre de paix, donc venez pas trop. Mais Dunkerque, c'est là où l'été va être agréable.
Dunkerque Beach.
Ouais, exactement. Malo-les-Bains, notre station.
Bah oui, bien sûr.
C'est vrai. Côté.
Les plages du Nord sont magnifiques.
Et longues plages, on fait du char à voile.
Cheval.
On mange des frites.
Ça fait de longes côtes maintenant, ça marche dans l'eau.
Et le carnaval de Dunkerque, chaque année.
C'est un autre style.
Oui.
Faut aimer. Moi, je
le lance. Là, c'est pas avec modération.
Voilà. Avec le fameux lancer de.
Le lancer de hareng.
Depuis la mairie de Dunkerque. T'as jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu. J'espère. Il y a deux. Et j'aimerais bien faire ce carnaval et j'espère un jour pouvoir faire le. Mais après, on va en parler parce que ça va être difficile, le carnaval de Rio.
Eh bien, justement, merci.
Ça va être difficile.
Ouais, ouais. Dunkerque, on y va en train. Donc, c'est bon.
Voilà, donc ce sera Dunkerque qui va gagner.
Tu nous tends la transition
pour la Rio.
On y va, c'est parti. 4 vols, 4 trajets par avion dans une vie. C'est la proposition de Jean-Marc Jancovici.
RMC, les grandes gueules.
Il est ingénieur, ça fait longtemps qu'il travaille sur ces questions d'environnement. Il avait fait en 2007 la plateforme écologique de Nicolas Hulot. Jean-Marc Jancovici, il le dit aujourd'hui, si on veut sauver la planète, il va falloir instaurer un quota de vol en avion.
Une des choses que les jeunes peuvent très bien faire, parce que quand je dis 4 vols dans une vie, c'est pas zéro, on pourrait très bien instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a 2 des 4 vols pour aller découvrir le monde. Et puis ensuite, quand on est plus vieux, on part en vacances en Corrèze, qui est un très beau département, ou on part en vacances dans les Vosges, ou on part en vacances en Corse même, où on peut aller en bateau.
Donc, l'étranger, c'est fini, quoi. On reste chez soi.
Ou on y va en train. Donc, on n'est pas complètement coincé. Il faut retrouver le temps du voyage, qui est un voyage long. Et en fait, quand le voyage est long, le voyage lui-même est une découverte.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de Jean-Marc Jancovici ?
Oui, il fait partie de toute cette génération qui en a profité, a parcouru le monde en avion. Je pense que Jean-Marc Jancovici doit avoir le bilan carbone de beaucoup de Français réunis. Ça fait penser aussi à Yann Arthus Bertrand qui a parcouru le monde en hélicoptère et devenu très riche grâce à ses photos vues du ciel qui étaient magnifiques et qui maintenant nous explique qu'il faut arrêter, faut surtout pas faire comme lui et il faut rester, il faut plus bouger. Donc bon, déjà première chose. La deuxième chose, c'est que il fait une fracture entre les jeunes qui auraient le droit donc de partir et les vieux, je sais pas à partir de quel âge, qui ne pourraient que voyager en Corrèze, où c'est très beau d'ailleurs la Corrèze, ou en Corse, etc., en prenant le bateau. Donc pour les retraités de demain, bah, je vois pas quel intérêt d'être à la retraite et qu'une bonne retraite, parce que tu ne pourras plus voyager en avion, tu devras rester chez toi, dans ton territoire. Est-ce que
ou
en
le
même
train,
temps,
ou tu prends le train,
ou tu prends le train, mais enfin tu peux pas aller partout en train, parce qu'il dit oui, c'est même, oui, tu peux aller en Europe. Enfin, donc c'est-à-dire qu'il y a des continents entiers que tu ne pourras plus jamais visiter. Il va nous expliquer aussi qu'il n'y aura plus donc de business. Alors on fera tout par Zoom, on se rencontrera plus. Est-ce que c'est ça l'avenir? Est-ce qu'on n'a pas le choix, comme il le dit, puisqu'il dit, il va même plus loin en disant de toute façon un jour il y aura plus de pétrole. Donc de toute façon, on ne pourra plus prendre l'avion. Ça fait 50 ans qu'on lui dit qu'il y aura un jour plus de pétrole. Bon, il faut être prudent sur ses projections. Mais est-ce qu'il a raison sur le principe?
Qu'en dites-vous, Thomas?
T'es un Thomas, toi, qui as pris l'avion.
Non, j'ai, quand on regarde purement, d'un point de vue, un travail purement statistique, théorique, etc. Voilà, quand vous savez aujourd'hui qu'il y a 90% des gens dans le monde qui n'ont jamais pris l'avion.
C'est vrai.
Si tout le monde se mettait à prendre l'avion, on va dire comme les 10% des Français les plus riches, qui sont pas de gens très riches, mais qui vont gagner 2500, 3000 euros en termes de revenus, je parle pas du patrimoine, et qui eux peuvent prendre l'avion. Si vous mettez le monde comme ça, effectivement, la contrainte du réchauffement climatique ne tient pas. Je veux dire, quand on regarde les courbes d'un point de vue purement théorique. Maintenant, quand on passe dans la vraie vie, avec la question du réchauffement climatique, qui est quelque chose de réel. En fait, c'est très difficile aujourd'hui. Quand on a eu des affects qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit, où on vous montre des destinations qui sont maintenant accessibles à bas prix, où vous allez voir sur une plage quelqu'un danser comme ça à Rio de Janeiro, où vous avez un Paris-New York, et vous pouvez trouver un Paris-New York maintenant à des prix défiant toute concurrence, parfois moins cher que qu'un voyage en train en France. Que vous pouvez faire des Erasmus, qu'on vous a dit d'être mobile, d'aller bosser à l'autre bout du monde, etc. Il va falloir un travail, mais énorme, je veux dire, en termes de représentation et d'affect pour faire marche arrière. Parce que vous dites à n'importe quelle personne, même qui n'a pas pris l'avion, de pauvre, vous allez finir à faire vos vacances en Corrèze une fois par an, alors qu'il y a 22 millions de Français qui ne partent pas en vacances. Je pense que les personnes vont vous dire non, moi, c'est pas possible ça. Je veux avoir la possibilité de rêver, bien sûr. Et donc, je pense que concrètement, ça va être très difficile à mettre en place. Maintenant, j'aimerais bien dire une dernière chose.
D'autant plus que ce sont quand même, je regarde les chiffres, ce sont plutôt les jeunes qui prennent l'avion. Alors,
mais oui, mais bien sûr. Mais
contrairement à ce qu'on raconte,
l'avion
c'est essentiellement les jeunes qui prennent l'avion.
L'avion est très peu cher. Et puis
25-34.
Oui, et puis les jeunes ont grandi dans ce monde globalisé. On peut pas dire le contraire aujourd'hui.
Avec les réseaux sociaux, que c'était d'ailleurs mieux d'aller chez l'autre.
Mais bien
c'est
sûr.
La génération Erasmus.
Mais bien sûr.
Et donc là, on revient en arrière. C'est-à-dire qu'on va rester chez soi.
Mais bien sûr. Mais il y a même eu ce débat, vous en souvenez, à l'époque de Trump, où c'était ceux qui n'avaient pas de passeport qui votaient plutôt Trump, et que ceux qui avaient des passeports étaient plus ouverts sur le monde et ne votaient pas Trump. Et il y a
même une partie
des gens très progressistes qui ont dit le voyage ouvre, etc.
Mais certains même disent que les démocrates, là où on voyage plus, il y a plus de démocratie et moins de nationalisme et moins de.
Mais j'aimerais bien ajouter un dernier élément. Moi, il y a quand même quelque chose. La contrainte climatique, quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le brouillard. Alors, j'ai fait mon calcul sur l'ADEME de mon empreinte carbone. Je suis à peu près un peu plus de 5 tonnes. Les Français sont à 8 tonnes. En 2030, on doit être à 5 tonnes. En 2050, on doit être à 2 tonnes. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et moi, j'aimerais bien avoir la mesure réelle de mon empreinte carbone. Parce que ça permet aux gens qui sont conscientisés, entre guillemets, de faire des efforts ou des arbitrages dans leur vie pour être dans la trajectoire que nous avons mis en place normalement à la COP 21. Et donc ça, moi, je trouve que c'est important. Aujourd'hui, ce brouillard qu'il y a autour de son impact carbone fait qu'en fait, on n'ajuste pas ses comportements quand on pourrait les ajuster. Et la dernière chose que je dirais, excusez-moi, j'ai été un peu long, c'est que c'est pas encore une fois aux citoyens de faire ces ajustements, mais c'était à la structure de l'économie, l'offre, la production, etc., à faire des efforts. Parce qu'on peut pas dire aux gens, prends 4 avions et en même temps, je sais pas, on permet à H&M de faire de la fast fashion, d'aller produire au Bangladesh.
En ce moment, c'est quand même Arro sur l'avion, là. Il y a une cible.
Oui, voilà. C'est 5%. L'avion, c'est 5%. Le digital, c'est aussi 5%. Enfin, à un moment, il y a des efforts peut-être à faire également.
Mais tu t'interroges quand même quand tu prends l'avion, tu te dis, ah, j'aurais pas dû,
Non, attends, ça dépend. Par exemple, là, je vais aller faire la promotion de mon livre au Mexique, je vais prendre l'avion, il y a pas de souci.
Quoi ?
Maintenant,
mais c'est ça qui pollue le plus.
Non, bien sûr.
Paradoxalement, Monsieur Beaune nous interdit de prendre l'avion de Paris à Bordeaux. Mais les longs courriers, c'est ce qui pollue le plus.
À partir du moment où il y a une solution, possible, il y a toujours les comparaisons des prix, mais à partir du moment où il y a une solution possible en train,
c'est le long courrier
je prends le train.
C'est pas les moyens courriers.
Antoine, tu prends beaucoup l'avion ou pas?
Pas beaucoup. Non. Je l'ai un peu pris durant la campagne présidentielle pour aller dans le sud, mais sinon je le prends très rarement.
C'est marrant, c'était dans le
sud. Au mieux.
Tu as pris des longs courriers. Le dernier long courrier remonte à quand?
Je suis allé une fois aux États-Unis quand j'étais jeune, c'était mon rêve. Mais depuis, j'ai fait des petits sauts en Europe, rien de plus. Donc je suis pas un gros consommateur d'avion. Honnêtement, je pense que c'est une question sociale, de niveau de revenu. Et donc là, on relance un peu une guerre des classes. Moi, dans ce sujet climatique, je vois une espèce de guerre des classes où ceux qui ont de l'argent trouveront toujours un moyen d'aller chercher l'avion, je sais pas, à l'aéroport de Luxembourg.
Oui, dans des pays qui ne l'interdiront pas. Ouais.
Et donc, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça va toujours tomber sur les mêmes. Et on revient au débat qu'on a souvent. C'est toujours les mêmes qu'on emmerde. Et là, avec une proposition comme celle-là, limitée à 4 vols par an, moi qui suis
par vie,
moi qui suis
deux quand tu es jeune et deux quand
ouais,
tu
moi quand qui ai fait
peut-être troqué avec d'autres,
moi qui ai fait modestement un peu de politique et qui conseille aujourd'hui là-dessus, si vous voulez défendre une idée, ne sortez jamais quelque chose d'aussi extrême. Et donc, je ne comprends pas ce que nous fait Jean-Marc Jancovici, qui a beaucoup de bonnes choses par ailleurs, hein, notamment sur le nucléaire. Mais là, dire, bon, bah, les gars, ce sera 4 par an. Mais en fait...
Il ne fait pas de politique,
par vie,
justement.
Il fait,
c'est par vie, j'arrive pas à comprendre. Ça paraît tellement fou.
Mais par vie, des politiques.
Et donc, ouais. Et donc là, je me dis, mais ça dessert complètement l'objectif.
La cause,
et je suis plutôt d'accord. Sensibilisé dans ma génération à l'écologie, mais en ce moment là, je regardais la télé. On a la première pub, c'est l'électricité verte. Ensuite, la voiture verte. Ensuite, la nourriture verte, etc. On n'a plus que du vert. On n'y croit plus. Et en fait, je pense qu'on arrive ou on arrivera assez vite à dégoûter les gens. Hein, en leur faisant peur, bah finalement ils vont dire j'y crois même pas. Les ZFE, alors là les ZFE,
les zones à faible émission,
on va interdire dans les centres-villes.
Je regardais, c'est 54% du parc qui pourrait plus rouler au 1er janvier 2025. Mais ça n'est pas possible. Arrêtez de faire peur aux gens, vous allez créer...
D'ailleurs, des villes écologistes reviennent en arrière, comme
mais
Lyon.
Oui.
Elina.
Oui,
alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec Thomas, faut agir. Et moi, je suis prête à faire un compromis, bien que moi, je dois prendre l'avion une fois tous les 20 ans.
Et là, tu vas le prendre bientôt.
mais demain, c'est pour des raisons professionnelles, et c'est à Montréal, j'ai pas le choix. J'ai pas y aller à la nage.
En bateau.
Non, mais
attends. C'est ce que nous dit Jean-Claude ici.
Oui, mais quand on...
que tu pars, une semaine avant ton...
c'est pas un bateau à voile.
Olivier, tu sais bien que quand ton patron te dit à telle date, tu vois...
Il faut créer le congé transport écologique.
Non, mais moi, en fait...
Pas mal.
En fait, moi, ce qui me... Moi, je pense que c'est impossible, 4 avions par vie. Je pensais à des pays comme les États-Unis ou le Canada, parce que je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Ben, eux, ils sont obligés de prendre l'avion pour aller d'un État à un autre.
Ouais. Ils n'ont pas beaucoup de trains. Ils n'ont pas nos TGV.
Oui, mais d'accord.
Donc là, ils pourraient faire des efforts.
Voilà.
Oui, là, ils pourraient faire des efforts. Je suis d'accord.
Mais par contre, à l'intérieur de notre France, oui, c'est vrai, même toi, tu aurais pu prendre le train au lieu de prendre l'avion pour aller dans le Sud. C'est vrai.
Ouais.
Non, mais je me dis, après, jusqu'où on va? Ça veut dire qu'après, on va nous dire une machine à laver par mois, on va nous dire...
Oui, mais c'est ça. Ouais. Ben, on l'a dit cet hiver.
Faut mettre,
je rappelle,
les slips
on l'a dit aux Français, à col roulé, il faut pas
voilà. Le
jour de la
non, mais on peut aller...
C'est ce qu'on a dit cet hiver.
Non, mais on peut aller très très loin.
On a eu un ministre en col roulé qui nous a dit, attention, col roulé et 19 degrés.
Et après, n'oublie pas, on va nous dire...
On est dans l'état nounou.
Une douche par semaine, enfin, ça peut aller... Très très loin quoi.
Non, moi je suis français. Mais... Dès qu'on me dit quoi faire, je fais le contraire. Donc à mon avis,
je suis d'accord avec Antoine. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui auront les moyens iront dans des pays où on aura la liberté de voyager. Parce que ça, cette mesure, il n'y a qu'en France on en parle. Hein. C'est comme l'interdiction des vols à 2h30. Il n'y a qu'en France qu'on le fait. Ouais. Il paraît que c'est génial. Mais donc on ira dans les pays quand on aura les moyens, où on pourra voyager. Et puis ceux qui ne pourront pas bouger, seront prisonniers de ces mesures.
Peut-être qu'aussi, moi je crois beaucoup à l'évolution, tout ça. Peut-être qu'un jour, on remplacera, je sais pas quoi, le kérosène par...
Il est en train d'arriver, les
voilà,
carburants.
Voilà.
Mais l'industrie aéronautique, elle travaille là-dessus.
Ben voilà.
D'ailleurs, c'est même son intérêt de moins dépendre effectivement du pétrole et d'aller vers des avions propres, comme on dit, c'est-à-dire kérosène, il y a la fusion nucléaire. C'est pour ça que je suis étonné d'un ingénieur quand Jancovici, moi je trouve qu'il disait des choses très intelligentes, il dit de plus en plus de conneries. Et alors peut-être que c'est parce qu'il a, une surface médiatique, ça lui monte à la tête. Mais lui qui est pro-nucléaire,
exactement,
était plutôt dans l'idée qu'on va faire le pari d'innovation, il nous invente des mesures que Marine Tondelier n'ose pas donner, quoi. C'est ça qui est bizarre.
Moi, je suis progressiste. Je crois au progrès au sens premier du terme, mais je suis persuadé qu'on trouvera des solutions.
Oui. Donc, c'est l'intérêt de tout le monde.
Mais oui,
même d'Airbus et qui travaille là-dessus, ou d'Assaut.
Non, mais là, ce que l'on constate quand même, c'est que quand il y a des lignes, par exemple, sur le rail, quand vous avez une ligne comme Paris-Marseille qui fait 3 heures, bah, naturellement, les gens vont prendre plus de temps.
Donc, on n'a pas besoin d'interdire.
L'Eurostar, aujourd'hui, si je veux dire, les gens vont prendre un avion Paris-Londres si vraiment il y a un prix très compétitif. Mais sinon, tu prends l'Eurostar, t'es de centre-centre. Mmh. Donc, quand t'as des alternatives crédibles, là, normalement, l'aviation, le rail se substitue à l'aviation. Mmh. Après, il y a autre chose que je voulais dire, et là, je reviens, Olivier. Ce qu'a dit Olivier. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui tiennent les positions les plus radicales, quand vous regardez, c'est toujours des gens qui ont tout fait avant.
Mais oui.
Et ça, c'est inaudible pour la plupart des gens. Parce que moi j'ai des gens dans ma famille, par exemple, qui ont fait constamment leurs vacances en France, qui sont à la retraite, qui aujourd'hui, grâce aux avions low cost et aux propositions de séjour à moindre coût, peuvent partir en Grèce, au Maroc, etc. Et qui adorent ça et qui en profitent après une vie de travail. Et il y a un mec qui va se ramener, qui a fait 3 fois le tour du monde, qui a fait des Paris-New York toute sa vie, qui va dire "Eh oh toi là, tu prends plus l'avion, machin, parce que moi, tu sais, je me suis bien gavé. Maintenant, j'ai plus envie de me gaver." Et ça devient insupportable. Oui. C'est inentendable, c'est insupportable. Ceux qui ont tout fait jusqu'à 25 ans, qui ont vu les plus belles choses du monde parce qu'ils avaient les moyens et qui maintenant vont te faire la morale parce que toi, à 50 ans, tu te fais des vacances à Hammamet à moindre coût, c'est pas entendable, ça.
Eh bien, dans un instant, on va en parler avec Robert. Robert, il est en Savoie, il prend régulièrement l'avion. On verra ce qu'il pense de la proposition de Jean-Marc Jancovici.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Avec les GG, avec vous, on discute de la proposition de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici pour sauver la planète, réduire les trajets en avion. Il propose qu'on ait des quotas tout au long de notre vie, en fait, des quotas de vol. 4 tout au long de notre vie, 2 quand on est jeune pour découvrir le monde, 2 de manière quand on est un peu plus âgé, sinon le reste du temps, on n'en profite pas. On arrête d'en profiter, on arrête d'user la planète. Robert, bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Robert de Savoie, qu'en dites-vous alors?
Alors écoutez, je suis déjà ravi de vous avoir au téléphone, hein, parce que vous êtes mon lien avec la France quand je suis au bout du monde quotidiennement. Et c'est vraiment un plaisir de vous entendre quand on est en Namibie, en Islande ou au Botswana. Hein. Voilà, c'est génial.
Et que faites-vous dans tous ces pays? Vous faites quoi dans tous ces pays?
Mon métier, c'est de voyager. Moi, je suis le boss d'une petite agence de voyage située en Savoie, qui est spécialisée en fait dans l'aventure à travers le monde. Hein, donc j'ai une approche du voyage en petit. Petit groupe, hein, très loin des clichés du tourisme de masse distillé par Jean-Marc Jancovici, dans des pays pas forcément très touristiques. Là, j'arrive hier, j'étais encore en Serbie, la semaine dernière en Bosnie-Herzégovine, j'étais en Côte d'Ivoire le mois dernier, je repars en Namibie.
Dites-moi, vous avez cramé là votre stock de voyage là.
Ça fait depuis longtemps, mais très clairement, je pense que Monsieur Jancovici a une vision complètement, je dirais, caricaturale du tourisme. Il se trompe de cible. Il sait pertinemment que ses propositions sont complètement utopiques. L'aviation, le voyage joue un rôle. Enfin, moi, c'est ce que je pense, essentiel dans le développement du tourisme et surtout de l'échange culturel entre les pays. Le voyage favorise la compréhension mutuelle, l'ouverture d'esprit, le renforcement des liens entre les cultures. Alors, faisons un peu de politique fiction. Imaginons un seul instant que cette mesure soit appliquée en France. Alors déjà, des dizaines de milliers d'emplois seraient détruits, des pans entiers de notre économie, notre industrie seraient en faillite, et comme vous le disiez à juste titre, combien de pays dans le monde appliqueraient cette mesure? Aucun. Donc, il faut arrêter ce type de débat complètement stérile et appliquons-nous, et je sais que les compagnies aériennes le font, à trouver des solutions technologiques viables et environnementales.
Oui, alors après, Jancovici, moi je pense qu'il il provoque là, il sait bien que cette mesure, d'ailleurs personne n'a repris cette mesure, même les écologistes les plus radicaux, mais il dit quand même... Il faut prendre moins l'avion. Et d'ailleurs, pardon, mais le gouvernement nous le dit aussi, hein, Clément Beaune, ministre des Transports, puisqu'il se réjouit d'avoir interdit les liaisons à moins de 2h30 de Paris. Donc, on voit bien, et on veut taxer les jets. Hein. J'ai vu aussi Clément Beaune, le même, très fécond en ce moment, et qui nous explique qu'il faut taxer les jets. Bon, c'est dommage parce qu'on a Dassault qui en fabrique, mais il faut les taxer parce que ça pollue. Donc, il y a quand même, à mon avis, quand même, une tendance anti-avion en ce moment. Hein.
Oui, mais moi qui voyage à travers le monde, c'est uniquement en France, allez, à une autre petite échelle dans les pays occidentaux et en Europe. Aux États-Unis, les gens prennent l'avion comme nous ici on prend le bus.
Et voilà.
Mais oui.
Mais est-ce qu'il faut pas changer ça justement?
Non, ça il faut le changer.
Ça pollue.
Je pense que
Mais nous, en France, on peut le faire, mais dans certains pays, c'est pas possible.
Par exemple, hein. Voilà. Désormais, quand je me déplace dans une ville, je ne me déplace qu'en vélo. Voilà.
Ah, si vous prenez l'avion pour...
Donc vous compensez votre vélo,
eh ben, l'avion. Ouais. Je compense.
Le supplément bagage pour emmener le vélo, il est cher.
Ah oui. Non mais on trouve.
Non mais la question est partout, hein. ce que dit Robert en fait est intéressant, mais ce qu'il faut dire en fait, c'est que plutôt que de dire aux gens. En fait, ce qui est très difficile, c'est quand tu dis aux gens de se contraindre dans un monde qui n'est pas contraint. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, tu dis aux gens, arrête, achète moins de vêtements, alors que partout où tu vas, on te met des affiches de publicité qui te disent d'acheter des vêtements, on te met des vêtements pas chers à portée de main, on te fait des soldes, on te dit, mais n'achète pas.
Tu peux avoir valeur d'exemple aussi.
Mais, oui, mais moi, ce qui m'embête, c'est que cette question de l'écologie devient une question morale. Oui. C'est-à-dire, c'est la morale. Je te fais la morale, tu as acheté ça, tu as été mauvais. Alors qu'en fait, il y a plein de transformations qui peuvent se faire sur l'offre, la production, etc. et qui, là, sont des combats que le gouvernement devrait imposer. C'est-à-dire qu'à un moment, dire, est-ce que c'est normal d'avoir autant de produits accessibles de fast fashion, machin, etc. D'ailleurs, ça marche de moins en moins pour le coup. Ouais. Est-ce que c'est bien d'importer des biens à 12 000 km que l'on peut fabriquer chez nous en France, des biens agricoles, de la viande, etc. Est-ce que c'est encore possible, ça? Non. Donc ça, c'est des vraies questions
sur le libre-échange,
mais c'est pas de la morale qui repose uniquement sur le consommateur. Voilà. Genre, t'as les avions pas chers, mais tu ne dois pas les prendre. Ça c'est ça qui moi, je pense... Ne sert pas
Robert,
écologique.
En plus de travailler dans le secteur du tourisme, mais admettons que ça se mette en place, il y a plein de pays qui vivent du tourisme, qui se développent aussi grâce au tourisme. Il y a des populations qui en ont besoin.
La France.
Il y a des populations qui en ont besoin pour vivre aussi.
Oui, Paris sans tourisme, c'est compliqué. Ouais.
Mais ça s'inscrit dans cette logique aussi que tiennent beaucoup de décroissance, d'arrêter, parce que la croissance, le tourisme, l'échange, ça ruine la planète aussi, Robert.
Mais vous le disiez tout à l'heure, je pense que ce genre de discours est contre-productif. Je le vois bien avec mes voyageurs et mes clients. Ouais. Plus on leur tabasse on leur matraque ce genre de discours, plus ils vont prendre l'avion. Hein. Mais c'est l'esprit français.
Il faut quand même avoir les moyens.
Non, pas tellement que aujourd'hui.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent avant que ça soit interdit.
Là, je regardais tout à l'heure. Hein, tu peux si. Alors, il faut être libre en semaine, mais tu as des gens qui sont libres en semaine, mais tu peux prendre. Demain, tu peux aller à Rome pour 80 euros.
Et parce que, en plus, ce qui est intéressant, c'est que la proposition Jean Covici et ceux qui disent qu'il faut limiter l'avion, on va revenir finalement à ce qu'on a connu il y a 50 ans. L'avion était réservé pour vraiment les très riches et majoritairement, les gens ne prenaient pas l'avion. Or, pendant 50 ans, on a démocratisé et on a bien connu quelqu'un qui a participé à cette démocratisation du voyage et de l'avion, c'est Jacques Maillot. On a cassé le monopole d'Air France. On a permis à tout le monde de pouvoir voyager. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde peut voyager parce que tu peux avoir des vols, tu te débrouilles, c'est souvent moins cher que le train et tu peux aller loin. Donc Robert, en fait, ça serait vraiment un retournement.
Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, Robert.
Merci à vous, les GG. À bientôt.
Bonne journée. Et c'est Laurent qui veut discuter aussi avec les grandes gueules. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là, Laurent ?
Oui, je suis là. Bonjour.
Voilà, attrapez bien votre téléphone. Attention au bruit. Alors, que pensez-vous de ce quota proposé par Jean-Marc Jancovici ?
Ah, moi, je suis déjà révolté. Vous m'avez excité pour la journée, là, en fait.
Dites-nous.
C'est une liberté de vie, quoi, en fait. Je suis d'accord qu'il faut faire attention à certaines choses, mais à un moment donné, faut peut-être trouver d'autres solutions qui embêtent les gens, quoi. Je crois qu'on a assez donné ces derniers temps, quoi.
Ouais.
Moi, j'ai de la famille de ma femme qui vit à l'étranger. Ça veut dire que je les vois 4 fois dans une vie.
Bien sûr, c'est ça. Oui. Ça rejoint le premier débat, en fait, sur l'immigration, etc. C'est-à-dire, on est dans une société aujourd'hui avec des flux d'humains. Et de fait, c'est cette société-là, ça va être très difficile après pour
les. Oui, parce que les mêmes qui veulent limiter l'avion sont quand même assez pro-immigration en général. Je veux dire, le discours écologiste, assez ouvert sur l'immigration, donc sur le voyage, sur les gens qui. Alors, ils ne viennent pas tous en avion, malheureusement, ils traversent la Méditerranée dans des conditions terribles, mais bon, plutôt sur le fait qu'on puisse bouger. Mais donc là, c'est assez contradictoire, là aussi.
Laurent, c'est plutôt aux compagnies, aux constructeurs de trouver les solutions aujourd'hui, c'est ça ?
Non, mais totalement. On nous impose trop de choses. Faut une voiture électrique,
Non, mais moi, je suis d'accord avec vous.
Moi, je travaille à mon compte. Je peux pas partir tous les ans en vacances. J'ai deux enfants. Là, je prévois d'aller l'année prochaine vivre mon rêve d'aller en Égypte. Je fais quoi ? Non, mais voyager, ça fait partie des rêves des gens.
Ouais, mais c'est ça.
Dans 10 ans ou dans 14 ans, maintenant, je vais avoir 50 ans. Dans 14 ans, je serai peut-être en retraite. Je fais quoi ? Je reste chez moi à la maison.
Il y a beaucoup de gens qui attendent la retraite pour voyager.
Oui,
qui disent, voilà, quand je serai à la retraite, je ferai ces voyages.
L'aboutissement d'une vie de travail, c'est ce que tu disais aussi.
Bien sûr.
Mais Thomas, tout à l'heure, tu disais prendre le bateau, mais est-ce que c'est prouvé que le bateau est moins...
Non, j'ai pas dit ça.
Non, mais
justement, j'ai dit l'inverse. Le bateau est très polluant aussi, que ce soit un bateau à voile.
Aujourd'hui, le transport maritime pollue plus que l'aviation.
Il faut voir ce que ça peut provoquer, parce que du coup, si tu te retrouves, pourquoi pas, avec ces quotas de voyage, et que tu dis, je veux bouger quand même. D'abord, il faudra mettre des trains en plus. Si on ne met pas de trains en plus pour les millions de personnes, tu fais quoi ?
4, ça veut dire quoi ? C'est deux allers-retours ou c'est 4 allers-retours ? Donc, Jean-Covici,
c'est pas précis. Ce qu'on appelle un voyage, c'est l'aller-retour.
Il a dit 4 vols.
4 vols, c'est 2 allers-retours.
Là où je comprends Jean-Covici dans ses propositions, c'est que Jean-Covici, il est tout le temps face aux courbes. Et quand tu regardes les 60 ans à venir et que tu vois l'augmentation finalement de la population, de la richesse de la population, de la volonté des 90% qui ne prennent pas l'avion de prendre l'avion, tu te dis comment tout ça va tenir.
Les projections, c'est toujours trompé,
Bien sûr.
Dans les 70, on nous expliquait que dans l'an 2000, on ne pourrait plus nourrir la planète et qu'il y aurait des famines partout. Et or, la faim dans le monde n'a jamais été aussi faible, même s'il y a encore des problèmes, n'a jamais été aussi faible aujourd'hui qu'il y a 50 ans. On s'est quand même beaucoup trompé dans les projections. Et on voit bien d'ailleurs que la courbe démographique va s'inverser. Vous expliquez comment on fera pour vivre dans un...
Mêmes écologistes...
Plus un pays s'enrichit, moins il fait d'enfants.
Écologistes,
va connaître ce processus.
Cette agriculture intensive qui permet de nourrir tout le monde est aujourd'hui en train de mener à la destruction de la planète. Puisque regarde, on veut réduire le nombre de vaches aujourd'hui dans le pays en raison du méthane.
On veut agir
là-dessus. Tu as prononcé le nom de quelqu'un qu'on aime bien dans les grandes gueules.
Ouais. Jacques Maillot.
Bien sûr, j'ai pensé à lui.
Il est avec nous, Jacques.
Salut Jacques.
Salut Elina, salut Anna, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Jacques, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de Jean-Covici alors
Je suis en désaccord total avec cette proposition, vous ne serez pas surpris. Je pense que c'est important qu'on puisse voyager. En plus, une parenthèse, les avions, quand on regarde le bilan, c'est pas ce qui pollue le plus. Il y a de plus en plus de progrès techniques. Les avions consomment de moins en moins. Et je pense que le point fondamental, il faut qu'on fasse des citoyens du monde. Si on veut faire des citoyens du monde, il faut qu'on puisse aller partout. Ce qu'on peut peut-être faire, par contre, c'est en effet un petit peu limité. À la limite, lorsqu'on fait un long courrier, de rester sur place 4 ou 6 semaines. Ce qu'on faisait d'ailleurs dans les années 90, je me rappelle lorsque j'organisais des voyages au Pérou, il y en a énormément qui restaient 4 ou 6 semaines au Pérou.
Alors 6 semaines avec 5 semaines de congés payés, ça va être difficile. Mais je suis d'accord pour qu'on rajoute une semaine supplémentaire de congés payés. Je suis d'accord.
Concernant par rapport aux congés payés, il n'y a aucune difficulté à partir 4 ou 5 semaines.
D'accord.
Mais Jacques, aujourd'hui, tu estimes qu'on est allé... On a poussé le bouchon trop loin sur l'aviation aujourd'hui ou pas?
On va trop loin. J'ai vu qu'on voulait encore aussi taxer. Non mais arrêtons.
On veut taxer les jets.
Lorsqu'on supprime un Paris-Bordeaux et qu'on nous dise prenez le train pour aller à Bordeaux, mais Alain, prenons un exemple pour aller à Nice.
Oui. C'est pas pareil, Nice, c'est 7 heures de train.
Heure et encore.
Oui, c'est vrai, c'est pas possible. Pour ça que je prends régulièrement l'avion.
Quand tu vas passer un week-end à Nice, tu prends le train pour aller à Nice.
Oui, mais quand tu vas à Bordeaux, c'est 2 heures de train. Ça va, quoi? Tu peux prendre le train plutôt que l'avion, là.
Marseille, ça colle. Quand j'ai organisé les voyages au début, je suis allé à Istanbul en train et je suis allé en Grèce en train.
Mais ce que je comprends pas, Jacques.
Il y avait de l'ambiance.
C'est qu'il y a un mouvement anti-avion en ce moment, et bizarrement, il est mené par la France, alors que nous avons encore une industrie aéronautique. On n'a plus grand chose, mais on a quand même une industrie aéronautique.
On a Airbus, etc.
Donc je comprends pas. Est-ce qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied comme on l'a fait avec le nucléaire?
Mais pareil. Non mais, tu as entièrement raison, je pense qu'Airbus, on est très fort. Actuellement, on bat Boeing et on devrait tout faire pour renforcer notre industrie aéronautique. Mais surtout que j'insiste, il y a des progrès énormes. Oui. Les avions consomment de moins en moins, les avions polluent de moins en moins. Faut quand même arrêter par rapport à ce discours permanent. Et en plus, je trouve que si on veut éviter un certain nombre de conflits, il est important que les citoyens puissent voyager le plus possible pour en faire des citoyens du monde et pas se replier uniquement sur notre petite France.
Jacques, merci d'avoir été avec nous quelques instants dans les GG. On t'embrasse, Jacques.
À bientôt, Jacques.
Bonjour à tous.
En même temps, Jacques.
Le plaisir d'avoir Jacques. Tiens, on va terminer une discussion avec un ancien pilote de ligne, Hugues, qui est avec nous. Bonjour, Hugues.
Oui, bonjour.
Bonjour, d'accord avec ce que dit Jean-Co ou pas alors ?
Merci de me prendre l'antenne. Alors, ça ne se résume pas en ces simples termes, mais ça fait partie intégrante d'un immense débat et d'un immense dossier qui, d'ailleurs, vaudrait le coup d'être un petit peu fouillé par les intervenants, parce que j'ai l'impression quand même que parmi les personnes qui peuvent intervenir, il y a très, très, très peu de connaissances sur le sujet. Et malheureusement, c'est dommage, puisqu'elles sont toutes disponibles. Monsieur Jancovici, il a effectivement dans ses interventions des propos qui peuvent déranger certaines personnes, mais c'est parce que ses propos sont toujours extraits. Donc il faut quand même recontextualiser. Il a produit un énorme travail avec le Shift Project, qui est c'est du lobbying hein, pour essayer d'infléchir les politiques du gouvernement pour justement aller dans le sens d'une protection de la planète. Mais si vous avez un petit peu le temps et la curiosité, aujourd'hui, la question ne se pose pas en ces termes. On ne peut pas résumer le débat en disant, ben voilà, est-ce que c'est bien de limiter ou pas l'avion ?
Ben, c'est Jean Covici qui énonce cette règle. Pardon, hein. Moi, je veux bien qu'il l'ait développé sur 70 pages. Enfin, il a très clairement dit qu'il proposait d'instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a quatre vols pour aller découvrir le monde. Ensuite, quand on est plus vieux, on reste en Corrèze et on prend le train.
Oui, mais la question, encore une fois, c'est pas ça. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a le transport terrestre, il y a également les habitations, il y a l'alimentation. Donc, c'est vraiment un pan du problème. Mais si vous voulez, la question n'est pas de savoir si on a envie ou pas de continuer ou pas à prendre l'avion. La question, c'est de savoir est-ce qu'on le pourra. Et là, on est dans un monde en contraction énergétique, dont le pic d'extraction du pétrole, et ça, c'est étayé par des études, a été atteint en 2008. D'accord ? Si vous regardez depuis ces dates-là, vous prenez des valeurs physiques, parce que là, on entend beaucoup d'opinions. Ce qui est quand même important dans la vie, ce sont les faits, c'est ce qui est factuel. Si vous prenez les mètres carrés construits, si vous prenez les tonnes chargées dans les camions, on est en décroissance en Europe depuis 2008. Donc, factuellement, dans un monde en contraction énergétique, avec un épuisement des ressources fossiles qui ne sont pas renouvelables à notre échelle de temps, puisqu'il faut des millions d'années, on sait pertinemment que l'aviation s'éteindra.
Ouais, mais alors attendez, Hugues, là, Hugues, je me permets un truc, parce que moi je me souviens d'un ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet, qui avait écrit un livre, Pétrole Apocalypse, qui disait qu'en 2010, on pourrait plus prendre l'avion, etc.
Et en fait,
moi je trouve ce discours est dangereux, parce qu'on a trouvé en fait à ce moment-là des ressources pétrolières non conventionnelles, type pétrole de schiste, sable bitumineux, qui sont des pétroles extrêmement polluants. Et donc en réalité, la question n'est pas de la non-abondance, ou pas. Peut-être qu'un jour il y aura ce pic, peut-être qu'un jour il y aura cette pénurie, mais la vraie question est comment on fait justement pour maîtriser notre consommation d'énergie, plus le fait que d'agiter cette fin du pétrole qui n'existera peut-être pas demain.
Merci Hugues, vous avez conclu notre discussion. On regarde, 4 vols dans une vie, est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que vous le souhaitez ? Oui ou non ? Non ! 83%, voilà, c'est sans appel.
Jean Covici de ne pas se présenter à une élection.
Dans un instant...
De ne pas prendre un charter pour Djerba, il va être mal accueilli. Quoi.
Oui, un instant, ça se passe chez vous, de l'avion, on va revenir à la circulation, à la voiture. Ça se passe à Caen, où pour ralentir la circulation, le maire a installé 10 panneaux stop dans la même rue. Ça se passe en France et on en parle avec vous au 32-16.
RMC,
l'après-midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, sur RMC, RMC Story, vous avez les podcasts déjà à votre disposition. Vous pouvez récupérer la première heure des grandes gueules en allant sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Qui est avec nous aujourd'hui? Elina Dumont, intervenante sociale. Nous sommes avec Antoine Diers, qui est juriste, conseiller juridique auprès des entreprises. Il vient de Dunkerque, des Hauts-de-France. C'est l'ami Thomas Porcher qui est avec nous aussi, professeur d'économie. Et on y va pour « Ça se passe chez vous ».
RMC, les grandes gueules.
Ça se passe chez vous.
Tous les jours, ça se passe chez vous. Une ville, une commune, un département, un petit fait d'actualité, un petit fait de société qui attire notre attention et dont on parle. Monsieur Louis Gerbier, où tu nous emmènes aujourd'hui ?
Direction la Normandie, dans le Calvados, dans le village d'Éperon, classé parmi les villes et villages où il fait bon vivre. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est pour sa rue dans laquelle se trouvent pas moins de 10 stops en 200 mètres. 10 top. J'ai pas dit 5, j'ai pas dit. C'est 10 stops en 200 mètres.
Pas dit 1, j'ai pas dit 2.
Alors on peut mettre 3 stops en 200 mètres, mais pas 4. Référence au Tuche, évidemment. L'objectif est clair, faire ralentir les automobilistes, car à terme, la mairie voudrait passer cette rue en circulation partagée. Vous savez, ces zones où est prioritaire les piétons et les vélos sur les automobilistes, avec une limitation de vitesse à 25 km/h. Cependant, la stratégie est jugée excessive et évidemment, les automobilistes s'agacent de devoir s'arrêter tous les 50 mètres et ne comprennent pas cette nouvelle signalisation à tel point, évidemment, on est en France, qu'il n'en reste plus que deux aujourd'hui. Les autres ont été dérobés. Voilà, les panneaux stop.
Oh là là.
Voilà. Donc, les GG 10 stop en 200 mètres pour rééduquer les automobilistes, vous en pensez quoi, Antoine?
Moi, j'ai tendance à vouloir soutenir le maire, parce que le maire, il est bien souvent tout seul, il sait pas quoi faire probablement pour régler son problème. Il a peut-être que ça entre les mains, et donc c'est un joli coup. Ça doit faire réfléchir les automobilistes. Et puis, voilà, moi j'ai bossé pour des élus locaux, je sais exactement toutes les difficultés, ils sont souvent seuls. Donc, soutien à ce maire.
Maire adjoint, si... ça
J'ai été directeur de cabinet, donc collaborateur. Mais soutien à ce maire, s'il pense que c'est la bonne solution pour régler son problème, eh ben il a bien raison.
Oui, ça va faire bouger les choses. Mais c'est excessif.
Je pense vraiment qu'il doit pas avoir d'autres solutions. Si c'est, on est dans un petit village, c'est ça.
Alors, c'est dans les alentours de Caen,
avec des automobilistes qui traversent, qui sont probablement pas du village. Moi, je leur mets un stop partout pour qu'on arrête de traverser le village, qu'il y ait que les habitants qui circulent dans le village et qu'on évite les nuisances de la circulation.
Et c'est ce que tu dis, c'est très proche de l'argumentaire du maire parce que c'est une route empruntée par des gens qui finalement ne font que la traverser car ils vont bosser à Caen.
Exactement.
Et 1636 habitants, si je me fie à la fiche municipale, Éperon, dans le Calvados, juste à côté de Caen.
Donc, c'est un petit village qui se défend.
Il y a que la sanction qui marche, quoi, la contrainte.
C'est pas de la sanction.
Non, mais... ouais,
stop,
alors,
merde.
Alors moi.
C'est pas des radars, hein.
Ouais.
Quand même. 30 mètres.
Bon, voilà. Ce que je voulais dire, la preuve en est qu'aujourd'hui, il en reste plus que deux. T'es d'accord, c'est ce que t'as dit.
Voilà.
Moi, j'aurais pas fait ça si j'avais été le maire. J'aurais mis de l'humain au lieu de mettre 10 panneaux. C'est de l'humain qu'il faut. T'as vu la preuve aujourd'hui, tous les panneaux sont partis, il n'en reste que deux. Et ça a coûté une fortune en plus aux habitants de Apron et Éperon. Voilà. Donc tu vois, il aurait mis un humain, je pense pas qu'on aurait volé le policier, quoi. Ou l'agent routier, quoi.
Il aurait fait quoi, le policier? Il aurait dit, excusez-moi, monsieur, on veut être tranquille dans le village, si vous pouviez passer par...
Antoine.
Pourquoi tu veux l'appeler Christophe?
Je sais pas, il a une tête de Christophe.
Une tête de Christophe. Je te dirai des mots bleus.
Antoine.
C'est un nouvel homme, c'est vrai.
Excuse-moi, tu mets 10 stops. Attends, je vais dire... Tu mets un homme, un agent de police, comme
rien à verbaliser, l'agent de police.
L'agent de police, il fait la circulation, il peut faire.
C'est pas un problème de circulation, c'est un problème de.
Tu limites
le village veut plus voir passer tous ces gens.
Moi, je peux remettre de l'humain dans la rue, dans la vue.
Non, mais. Franchement, moi,
Thomas.
Non, mais ça dépend des situations. Parce que tu vois, on connaît pas la situation. Moi, je veux dire, j'ai connu des zones pavillonnaires. Où il y a plein d'enfants qui jouent. C'est des rues, hein. Il y a beaucoup dans, tu sais, quand t'as 12 ans, 13 ans, tu vas jouer, je sais pas, au foot, autre, tu joues toujours à moitié sur la rue, là. Et il y a beaucoup de gens qui préféraient passer par ces zones pavillonnaires pour éviter les grandes avenues un peu plus bouchées. Donc, ils passaient comme ça à toute vitesse pour gagner du temps. Et là, t'avais des gamins qui étaient là, comme ça, qui étaient. Et donc, souvent, dans ces conditions-là, les maires ont mis des stops, des choses comme ça. Des ralentisseurs pour rendre le passage plus difficile et décourager les gens de prendre ça. Donc, je connais pas la situation typiquement de ce village. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais j'imagine que s'il a fait ça, c'est pour une bonne raison.
Quels sont les autres moyens à la disposition de ce maire, c'est la vraie question.
Il y en a pas beaucoup.
Il y en a pas beaucoup.
Ouais.
Alors il peut mettre des radars.
Mais non, bon, même voilà. Pas radar, c'est de la compétence État. Hein. C'est la préfecture qui décide.
Donc en fait,
de
moi je comprends. Il peut pas faire grand chose. Il fait un coup.
Parce qu'on a Kevin qui est avec nous. Il s'appelle du Calvados. Bonjour Kevin.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et justement, alors on est très déjà bien, avec Éperon, on est dans le Calvados. 10 panneaux stop dans la même rue. Et vous vouliez réagir. Pourquoi, Kevin? Dites-nous.
En fait, j'habite dans la résidence. Enfin, c'est la résidence, le quartier concerné. Par ces stops, j'ai un petit peu écouté ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est une petite résidence, un petit quartier résidentiel très calme, les gens passent, mais c'est la majorité des gens, ce sont des riverains, C'est absolument pas une route qui fait un détour ou qui va quelque part justement pour éviter les bouchons. Bien au contraire. Et le truc, c'est que bah, ces stops-là, en fait, sont pas du tout respectés. Donc c'est encore plus dangereux qu'avant parce que les gens ne comprennent pas trop comment faire. Parce que non seulement ce sont des stops installés, mais ce sont des stops temporaires en fast-test. Donc en fait, ce sont des marquages jaunes que les gens ne comprennent pas. Ah et en plus, ce sont pas des stops plantés dans le sol, ce sont des stops mis sur une petite butte en béton, enfin un petit truc en béton pour éviter que ça s'envole. Sauf que bah, récemment, ils ont été volés, ces stops-là. Enfin, volés ou je ne sais pas ce que c'est devenu, mais des jeunes ou je ne sais pas. Enfin, j'accuse des jeunes, mais peut-être aussi, c'est peut-être des...
Des vieux.
Des retraités.
Hein, on sait pas, peut-être des petits plaisantins.
Des collectionneurs, quoi.
Mais oui, peut-être. Alors, ils ont quasiment tous été enlevés de leur socle. Et donc, du coup, bah, il y a juste les marquages aujourd'hui. Et bah, du coup, c'est dangereux, c'est juste dangereux. Les gens,
qu'aurait-il fallu faire alors, Kevin? Selon vous, qu'aurait-il fallu faire?
Alors, moi, je pense qu'installer, alors je sais qu'on est les rois des dodanes en France et qu'il y en a beaucoup. Installer des petits dodanes, ça n'aurait pas été un mal.
C'est pire, le dodane.
Je sais pas, parce qu'au moins, les gens ralentissent vraiment.
Oui, mais ça fait du bruit, ça abîme les voitures.
Pour les motards,
c'est pas bon pour les motards. Le stop, c'est pour moi, c'est la meilleure alternative au dodan. Ça permet de faire ralentir, s'arrêter, et ça évite.
Ça fait pas la voiture.
Les gens s'arrêtent. Là, c'est pas du tout le cas. Là, je le vois, c'est pas du tout le cas. Et puis, ou alors des radars pédagogiques. Alors, tout le monde les respecte pas.
Non, c'est
mais, vrai. Mais bon, c'est ça atténue un peu, on va dire. Il y a toujours un
minimum petit peu, de quand même.
Qui le respecte. Parce
Kevin,
là, le stop, en fait, c'est juste des gens qui arrivent dans la rue ou qui n'est pas en stop. Si un autre décide de passer en perpendiculaire et en fait, soit n'est pas au courant, soit s'en fiche et du coup, crie le stop. Ça
peut être un feu alors.
Alors des feux, oui, même si à côté il y a un grand boulevard, il y en a énormément. Les feux, ça crée des bouchons, surtout quand les gens rentrent de chez eux, parce que comme je l'ai dit, c'est une zone résidentielle, donc les gens rentrent à peu près en même temps, entre 17h et 19h.
Kevin, j'avais juste une question.
Oui.
Mais quand on entend ça, moi je me dis, mais ils sont si incivilisés que ça dans ce village.
Alors moi, voilà. Alors non, c'est pas dans ce village.
Qu'est-ce qui se passe en Normandie?
Oui, c'est vrai.
C'est Fast and Furious, ça.
C'est absolument partout et c'est vraiment pas les pires. Hein. Comme je vous ai dit, je suis commercial. Moi, je suis commercial dans le Grand Ouest, donc je fais plusieurs départements. C'est peut-être mon petit côté patriotard, mais les Normands sont ceux qui conduisent le mieux à mes yeux. Quand je suis dans notre région, c'est absolument infect pour ne pas citer la Mayenne, même si j'aime beaucoup
c'est la Mayenne.
Ils ont découvert la voiture il y a 15 ans, donc c'est pas l'endroit.
Le tacle à la gorge.
Je connaissais la rivalité normande-bretonne, mais pas mayonnaise.
Normand, excellent.
La rivalité, c'est un constat. Non, alors, c'est pas une question d'incivilité, c'est que les gens. Moi le premier, j'essaie de respecter un maximum le code de la route parce que c'est aussi, enfin mon permis, c'est aussi mon droit pour mon travail.
Pour votre travail.
Mais les stops, on n'en peut plus. Les routes qui passent de 80 à 90, parce que le Calvados a été concerné récemment par ça. Hein. Faut savoir qu'au 1er janvier, des routes qui étaient repassées à 90 il y a 6 mois sont repassées à 80.
Ouais, ça.
Et le 1er
ça.
Mars sont repassées à 90.
C'est n'importe quoi.
Ils ne vraiment plus vous donner de la tête. Donc aujourd'hui, sur la route, les gens
Kevin.
Sont pas civilisés. Ils sont juste ignorants.
Merci d'avoir été dans les grandes gueules.
Merci Kevin.
Et on notera donc la rivalité entre la Mayenne et le Calvados. Il y a les matchs Laval quand ça doit.
Oh là là, Dornano,
ça doit crayonner. Merci, aujourd'hui ça se passe en France. Donc éperons les panneaux stop dans une même rue. C'était notre petite tour de France du jour. Et demain, de nouveau, on se baladera dans le Ça se passe chez vous dans les GG, dans les Grandes Gueules. Allez, suite des Grandes Gueules dans un instant.